Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile, en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ces nouvelles du monde pour le jeudi 21 décembre. Comme on approche de la journée la plus courte de l'année, ce sera demain le solstice d'hiver, eh bien on va faire une édition des nouvelles du monde avec des nouvelles brèves. Voilà, des nouvelles courtes, il y en aura par contre un certain nombre, du coup on pourra en dire plus. Et ça sera un petit florilège avec lequel nous terminerons cette année avant de se retrouver à la rentrée prochaine au mois de janvier, à savoir le mardi 9, si je ne dis pas de bêtises. Et on commence par une invitation d'un rassemblement ce soir même, jeudi à 18h, devant la sous-préfecture du Vigan, à l'appel de nombreux syndicats, partis, qui s'opposent eh bien, vous le saurez certainement, au passage de cette loi immigration qui a eu lieu et qui a été votée il y a maintenant un peu plus de 24 heures. Protestation donc contre cette loi d'immigration qui reprend, selon les mots de ce communiqué, le programme xénophobe de l'extrême droite. Un texte qui a mis quand même 18 mois à être voté, considérablement durci par le groupe Les Républicains au cours de cette fameuse commission mixte paritaire qui a eu lieu ce lundi. La loi, je le rappelle quand même, contient des mesures visant à limiter les aides sociales pour les étrangers en situation régulière, l'instauration d'une caution à payer pour les étudiants étrangers qui voudraient venir étudier en France, la création de quotas migratoires fixés par le Parlement, des mesures pour faciliter la déchéance des binationaux qui seraient condamnés pour des crimes, ou encore la restauration d'un délit de séjour irrégulier. Voilà, si vous souhaitez donc aller manifester votre mécontentement face à cela, vous pouvez par exemple aller donc au Vigan ce soir à 18h devant la sous-préfecture. Et il y a aussi des rassemblements qui s'organisent dans pas mal de villes de France. Les mesures agro-environnementales et climatiques, MAEC, c'est un des outils de la politique agricole commune, eh bien ils vont bénéficier d'une enveloppe supplémentaire de financement de 150 millions d'euros, un soutien donc à l'agroécologie, ce qu'a précisé Marc Fesneau, je ne sais pas si on doit dire Fesneau, le ministre de l'Agriculture en tout cas et de la Souveraineté Alimentaire, il a annoncé ça ce 18 décembre dans les colonnes de Ouest-France. Ces 150 millions vont donc s'ajouter aux 820 millions d'euros qui sont initialement prévus, donc une rallonge sur l'enveloppe. Ces aides, en tout cas, sont versées aux agriculteurs volontaires qui s'engagent dans une démarche d'agroécologie. Et vu que ces fameuses mesures agro-environnementales et climatiques, ces MAEC, ont suscité une forte demande, eh bien, elles n'ont pas pu être toutes financées. C'est pour ça qu'il y a eu une demande, justement, de réévaluer un petit peu les aides. La solution a donc été trouvée pour cette enveloppe pour 2024, une enveloppe supplémentaire, assumée à la fois par le ministère de l'Agriculture et les agences de l'eau. La Confédération paysanne, qui est mobilisée depuis 4 mois sur ce sujet, s'est dit satisfaite de cette première victoire, mais elle voudrait quand même pouvoir connaître la répartition précise de cette enveloppe entre le budget de l'État et les agences de l'eau, dans la mesure où le gouvernement a renoncé à augmenter les taxes pour pollution diffuse et la redevance eau pour irrigation qui était perçue par les agences de l'eau. Vous savez, c'est cette fameuse taxe qui avait énervé pas mal d'agriculteurs, notamment soutenus par la FNSEA, et qui ont fait c'est eux qui ont retourné tous les panneaux de villages et de routes, qui sont d'ailleurs encore à l'envers pour la plupart d'entre eux. Voilà. Donc un manque à gagner dans l'autre. Et c'est ça qui fait que la Confédération paysanne aimerait bien quand même en savoir un peu plus sur cet argent et ce qui va être bien fléché vers l'agroécologie.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
C'est une bonne nouvelle pour nos animaux de compagnie, une moins bonne pour nous. Une autre brève puisée sur le site Reporter. Ça concerne les nitrites de sodium. Eh bien, ils vont disparaître des aliments pour chats et chiens qui sont vendus dans l'Union européenne. selon un règlement qui a été publié le 15 juin dernier au journal officiel, mais ils sont toujours autorisés dans l'alimentation humaine. C'est face à ce non-sens qu'un député MoDem, qui s'appelle Richard Ramos, a livré ce 15 décembre des croquettes à l'Élysée pour le chien d'Emmanuel Macron, qui s'appelle Nemo. De l'humour donc, mais pour justement tenter d'alerter le gouvernement sur cette absurdité. Les effets des nitrites sur la santé des animaux sont encore mal connus. Et ainsi, dans ce rapport de 2020, l'Autorité européenne de sécurité des aliments estimait qu'elle manquait d'études, d'ailleurs, sur certaines espèces animales, comme les lapins, les chats et les chiens. Et ce qui, pourtant, a conduit à l'interdiction des nitrites dans les croquettes. Et en revanche, de l'autre côté, les conséquences des nitrites sur la santé humaine sont bien documentées, mais elles sont toujours autorisées, voilà. Elles sont utilisées dans l'industrie agroalimentaire. Ils permettent de mieux conserver, notamment, les produits de charcuterie, que vous consommerez peut-être en quantité pendant ces fêtes. Le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, a lui montré de son côté que cette substance était liée à la formation des cancers. Un coup de peinture qui va coûter cher. Ce mardi 19 décembre, le tribunal de Lyon a condamné trois militantes de dernière rénovation. L'organisation dont je vous parlais ce mardi qui a décidé d'arrêter d'officier sous ce nom-là. Eh bien, trois de ces militants ont reçu une amende de 80 000 euros. C'était en mars dernier, ils avaient repeint en orange la façade de la préfecture du Rhône pour alerter sur les manquements de l'État en matière de rénovation énergétique des bâtiments. Ils s'étaient fait donc appréhender à la suite de leur action. Eh bien, ces activistes devront payer notamment 38 200 euros à l'État et 38 200 euros à la préfecture pour les frais de nettoyage. Dans un communiqué de presse, Dernière Rénovation a dénoncé ce jugement sévère qui place la justice lyonnaise du mauvais côté de l'histoire et participe de la criminalisation sans relâche par l'État des citoyens qui défendent leur vie. En plein procès donc pour de nombreuses actions, ce collectif avait annoncé ce lundi 19 décembre la fin de sa campagne sur justement le sujet de la rénovation des bâtiments. Mais il promet de se relancer sur d'autres thèmes dès la rentrée. En tout cas, le plan climat de la France n'est pas à la hauteur, et c'est ce qu'a fait savoir la Commission européenne ce lundi 18 décembre, en publiant ses commentaires sur les différents plans climat des pays de l'Union européenne. Bien sûr, on revient donc sur la France. Il est prévu que d'ici 2030, 33% de l'énergie soit d'origine renouvelable, ce qui est totalement donc insuffisant pour la Commission européenne, qui rappelle que l'objectif fixé à tous les pays de l'Union, c'est 44%. Ce constat est d'ailleurs appuyé par Greenpeace, qui a étudié les plans climat des 20 pays européens qui les ont fournis à la Commission, et ils ont comparé les ambitions de chacun, chacune. Et ainsi, la France se retrouve en 12e position du côté des ambitions de développement du solaire photovoltaïque d'ici 2030. Pour ce qui est de l'énergie éolienne, elle se retrouve à la 12e place sur 19 pays comparés. Elle fait systématiquement moins bien que c'est qu'on parle de comme l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, l'Italie ou les Pays-Bas. Greenpeace estime que pour atteindre ses objectifs, la France devrait multiplier ses ambitions d'énergie solaire par 2 et son ambition pour l'éolien par 1,5. La Commission européenne formule des recommandations pour chaque pays membre, prêt à eux de les appliquer. Mais ils devront en tout cas rendre leur copie corrigée sur le plan climat avant le 30 juin 2024. On va partir au Brésil avec le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, qu'on connaît mieux sous le nom de Lula et qui est revenu au pouvoir, vous le savez. Il se présente comme un défenseur de l'écologie, mais à côté de ça, il vend des concessions pétrolières. Un bel exercice d'équilibriste donc joué par ce président nouvellement réélu. Ça s'est joué ce 13 décembre. Une vente aux enchères de concessions pétrolières s'est tenue à Rio de Janeiro. Les groupes pétroliers ont ainsi pu acheter des parcelles, dont certaines sont situées dans des zones très sensibles, comme des régions proches de l'archipel Fernando de Noronha, l'atoll das Rocas et le bassin amazonien. Certaines de ces zones sont d'ailleurs également très proches de territoires habités par des populations autochtones. Et quelques jours avant cette vente, le président Lula était aussi lui à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis pour la COP28, où il avait fait un discours appelant à une baisse de la dépendance aux énergies fossiles. Pourtant, rappelle donc cette info, le Brésil est le 9e producteur de pétrole du monde et il rejoindra début janvier 2024 la liste des pays membres de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Cette vente aux enchères est plus qu'une contradiction. C'est un affront à la société brésilienne et aux efforts mondiaux de lutte contre la crise climatique, déclarait Marcelo Laterman, le coordinateur de la campagne Océan de Greenpeace Brésil. On reste en Amérique du Sud avec des nouvelles de l'Argentine où le nouveau président ultralibéral Milei a annoncé une dérégulation massive de l'économie du pays. Il a signé en effet hier un décret qui destine à modifier ou à abroger plus de 300 normes, dont celles par exemple sur les loyers, les privatisations ou le droit du travail. L'objectif est d'entamer le chemin vers la reconstruction du pays, de rendre la liberté et l'autonomie aux individus et de commencer à désarmer l'énorme quantité de régulations qui ont retenu, entravé et empêché la croissance économique dans notre pays. Ce sont les mots donc du nouveau président Javier Milei en Argentine, au cours d'une allocution qui a été diffusée, une allocution diffusée à la radio et à la télé. Cette décision pourtant restreint les fonctions de l'État et renforce les forces du marché. C'était le commentaire de Página 12, un quotidien argentin. Le texte abroge, je vous le disais, la loi qui encadre les loyers. Il restreint le droit du travail et donne le coup d'envoi à la privatisation d'entreprises publiques et des clubs de football d'ailleurs aussi. C'est important là-bas. Bon, encore ce décret, il a été passé, mais il doit ensuite trouver une voie devant le Parlement, où là, pour le coup, le parti présidentiel est minoritaire, donc pas dit que tout cela puisse s'appliquer dans les faits.
Des nouvelles du monde.
Quelques chiffres de la guerre à Gaza avec le Hamas qui annonce le chiffre de 20 000 morts. L'organisation islamiste palestinienne a affirmé hier que les opérations militaires israéliennes avaient tué au moins 8000 enfants et 6200 femmes depuis le début de la guerre. Ce chiffre de 20 000 morts avancé par le Hamas représente presque 1% de la population de Gaza, a commenté la BBC. La BBC média britannique, qui a interrogé d'ailleurs des experts militaires, qui ont décrit la grande variété des bombes qui sont utilisées par Israël, comme ayant directement contribué à l'ampleur du nombre de morts dans ce conflit. L'État hébreu a, lui, de nouveau exclu hier tout cessez-le-feu avant l'élimination du Hamas, qui est au pouvoir depuis 2007 à Gaza et qui est classé organisation terroriste par les États-Unis, l'Union européenne et Israël. « Ceux qui pensent que nous allons nous arrêter sont déconnectés de la réalité », a répété le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Établi au Qatar, le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, s'est lui rendu hier au Caire pour des discussions avec les responsables égyptiens, portant notamment sur une trêve provisoire d'une semaine en échange de la libération par le Hamas de 40 prisonniers israéliens, des femmes, des enfants et des hommes. Et on termine ces nouvelles du monde pour aujourd'hui avec deux articles scientifiques piochés sur la revue Science et Avenir. Tout d'abord, cette bonne nouvelle, espérons-le, c'est un écosystème unique qui a été découvert. Ça se passe au sommet de la Cordillère des Andes en Argentine. Un écosystème constitué de lagons de haute altitude qui abritent des structures contemporaines, donc qui seront semblables au premier stade de la vie terrestre. Ça représenterait donc un laboratoire naturel pour tenter de comprendre les premiers développements biologiques de la vie sur Terre. Faut remonter au mois d'avril de l'année dernière, en 2022, après 9 heures de route chaotique sur les chemins de terre, un géologue américain, Brian Hynek, et une microbiologiste argentine, Maria Farias, parviennent à un minuscule village percé à plus de 3600 mètres d'altitude. On est donc dans la partie centrale de la cordillère des Andes en Argentine, sur le haut plateau de Puna de Atacama. Lors de ce séjour, alors qu'ils examinaient des images satellites du désert environnant, Brian Hynek repère d'étranges et intrigantes étendues d'eau situées à quelques dizaines de kilomètres du village où ils sont. Ils réussissent à rejoindre ce site et les chercheurs découvrent alors sur place un vaste réseau de 12 lagons d'eau salée cristalline qui s'étendent sur une dizaine d'hectares de plaines également salées. Plus surprenant encore, le fond de ces lagons est tapissé de stromatolites verts, ce qui pour le chercheur ne ressemble à rien de connu. Les stromatolites, ce sont les premières preuves fossiles de la vie sur Terre. Les plus anciennes qu'on a trouvées, c'était en Australie occidentale. Ce sont des monticules rocheux qui ont été formés couche après couche, il y a environ 3,5 milliards d'années, par des communautés microbiennes. Cela à une époque où l'atmosphère de la Terre primitive était principalement constituée de dioxyde de carbone, et donc pas peuplée des végétaux et des animaux comme aujourd'hui. Ces stromatolites modernes, on en trouve en Australie, mais aussi au Brésil, en Afrique du Sud, aux Bahamas, un petit peu en France aussi dans le Jura. Et ceux qu'on trouve aujourd'hui sont plutôt petits, comparés à leurs ancêtres qui, eux, pouvaient atteindre 6 mètres de diamètre. Et bien, ceux qui ont été trouvés justement à Puna de Atacama présentent pour certains des diamètres allant jusqu'à 4 mètres et demi. Ils sont donc plus proches des standards de l'archéen, c'est ainsi qu'on appelle cette période très très ancienne de la Terre, plus proches donc de l'archéen qu'à ceux d'aujourd'hui. Une analyse plus précise a été faite de ces stromatolites de Puna de Atacama, et elle montre qu'ils sont constitués d'une couche externe verte de cyanobactéries, ce sont donc les premières bactéries présentes sur Terre qui étaient capables de photosynthèse, et également un noyau rosâtre, riche en archées, des organismes unicellulaires familiers des environnements extrêmes. On est donc à presque 4000 mètres d'altitude, dans l'un des environnements les plus secs et hostiles à la vie de la planète, et voilà qu'on a trouvé un écosystème unique, jusque-là inconnu des scientifiques. À cette altitude, les sols et les étendues d'eau subissent un flux important de rayonnement solaire ultraviolet. Pour Brian Hynek, donc, le géologue, il s'agit là de l'un des meilleurs laboratoires naturels qui permettra d'étudier les tout premiers développements de la vie sur Terre il y a environ 3,5 milliards d'années. Bon, petit bémol et petite inquiétude, tout cet environnement pourrait peut-être malheureusement bientôt être détruit. Cela dans le but d'alimenter nos sociétés technologiques en téléphone, trottinettes, vélos et autres véhicules électriques qui nécessitent des batteries et donc du lithium. Et oui, en effet, ces fameuses salines de la Puna de Atacama sont très riches en lithium et une compagnie d'extraction a d'ores et déjà obtenu une licence d'exploitation de ce site exceptionnel. Et visiblement, si vous avez suivi les infos, c'est pas le nouveau gouvernement de Javier Milei qui va les protéger, vu que je crois qu'il pensait même carrément faire disparaître le ministère de l'écologie. On termine avec un petit peu de biologie, savoir si vous êtes plutôt lève-tôt ou adepte de grasse matinée. Il y en a qui disent « je ne suis pas du matin », et bien en fait, il se pourrait que ça soit en effet possible, génétiquement en tout cas prouvé, ça vous ferait une bonne excuse, ça serait lié à nos gènes de l'homme de Néandertal. Notre horloge circadienne, donc notre horloge interne, pourrait en effet être influencée par la proportion qu'on aurait plus ou moins grande des gènes hérités de l'homme de Néandertal. Au fil des rencontres, les humains, donc Homo sapiens et les Néandertaliens, Homo Neanderthalensis, se sont en effet accouplés et ont échangé du patrimoine génétique. On est aussi un petit peu des héritiers de Néandertal. Ces relations ont laissé des traces, puisqu'à l'exception des populations africaines, tous les humains actuels ont un petit peu de Néandertal, entre 1 et 4% du génome, qui provient donc en droite ligne de ses ancêtres. Et cet héritage a d'ailleurs des conséquences sur la santé, d'autres que celle-ci, d'ailleurs vous pourrez la retrouver dans cet article de Nature de Sciences et Avenir, pardon. Par exemple, certaines pathologies ou comportements seraient modulés par les variants génétiques néandertaliens. Eh bien, cette nouvelle étude indique donc qu'ils ont aussi une influence sur les habitudes de sommeil en régulant notre horloge circadienne. C'est parti d'un constat assez simple. Les hommes de Néandertal ainsi que ceux de Denisova, qui sont aussi des ancêtres des lignées humaines, tout cela ont vécu en Eurasie, à des latitudes où l'ensoleillement était beaucoup moins important et plus variable surtout que ce que les Homo sapiens ont pu expérimenter avant de quitter l'Afrique, dont ils sont originaires. L'influence du soleil et des niveaux d'exposition à la lumière peut conduire à des adaptations évolutives qui ont déjà été mises en évidence chez des plantes, des insectes ou des poissons, mais assez peu étudiées chez l'humain. C'est ainsi qu'une équipe s'y est donc attelée, une équipe qui est basée à l'université Vanderbilt, on est à Nashville aux États-Unis. Ils ont voulu explorer cet aspect. Ils se sont penchés sur l'étude de 246 gènes qui sont liés à l'horloge circadienne, donc à nos rythmes intérieur biologique. Ils ont retenu 16 de ces gènes qui sont probablement régulés de manière différente entre les sapiens et les autres espèces humaines. Et étant donné que les ancêtres des humains modernes et des néandertaliens se sont croisés, il est donc possible que certains humains aient obtenu des variants néandertaliens de ces gènes. Pour appréhender donc l'influence de ces variants, les auteurs de l'étude ont utilisé une base de données britannique qui inclut les génomes de plusieurs centaines de milliers de personnes. Ils ont donc travaillé sur des bases de données de génétique et ils ont pu découvrir que plusieurs variants avaient des conséquences sur les préférences en matière de sommeil et que ceux qui auraient des origines plutôt néandertaliennes, ont été associés à des réveils précoces, des gens qui se lèvent tôt, et une tendance à se coucher plus tôt aussi. Néandertal, donc, si on, ça reste des supputations, mais quand même, si avec cet équipement génétique néandertal avait bien ses caractéristiques, il pouvait ainsi profiter de longues matinées pour dénicher sa nourriture et vaquer à ses occupations. Son rythme était également adapté à des latitudes où l'ensoleillement l'hiver était faible, comme en ce moment. Homo sapiens, quand il s'est aventuré hors d'Afrique, lui aussi a été confronté à des conditions plus difficiles et ça a pu l'avantager donc de se croiser avec Néandertal et pour certains de sélectionner cet apport génétique pour mieux supporter le manque de soleil. Bon, les auteurs soulignent toutefois que c'est qu'une première étude et elle ne repose que sur l'examen d'une seule population moderne, à savoir les Anglais, et qu'il faudrait mener les mêmes types d'investigations sur d'autres communautés afin d'avoir une meilleure vue sur cet héritage en matière d'habitude de sommeil. Et quand même, il faut quand même rappeler que la génétique ne fait pas tout, hein, que beaucoup d'autres facteurs physiologiques ou culturels peuvent bien évidemment influencer le sommeil.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein.
Des nouvelles du monde.
Voilà, c'est là-dessus que ça s'achève. Moi, en tout cas, je pense que je suis plutôt team Néandertal. Se lever tôt, c'est pas la folie l'hiver. Demain, c'est vendredi 22 décembre. C'est le jour le plus court de l'année. Donc, à partir de là, les jours vont commencer à se rallonger. Donc, ça peut être aussi une bonne nouvelle. C'est ce qu'on appelle le solstice d'hiver. Hein. Ça, il sera demain, donc le 22 décembre. Dans le calendrier païen, d'ailleurs, la date de ce solstice d'hiver est associée à la fête de Yule, la célébration de l'hiver. Certainement là où ont épuisé un petit peu ensuite les chrétiens pour nous mettre la fête de Noël dans la foulée. En tout cas, c'est une fête qui a une histoire très très ancienne. Donc voilà, si vous n'aimez pas trop, le Père Noël ou Jésus-Christ, vous pouvez toujours vous raccrocher avec Yule, Yule. Vous allez voir, il y a des trucs avec des sorcières, tout ça. C'est sympa sur Internet. Sur ce, les amis, passez de bonnes fêtes. Dormez bien, et puis on se retrouve à la rentrée pour d'autres folles aventures et les nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international. Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.